Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Stéphane Pedrazzi accueille les experts.
Jeudi 4 avril, merci d'être avec nous sur le plateau des experts. Au programme ce matin, l'inflation, elle est retombée à 2,4% le mois dernier dans la zone euro. La BCE devrait annoncer prochainement une baisse de taux. Est-ce que ce sera suffisant pour relancer la machine ? Bruno Le Maire veut y croire, il promet un élan économique puissant pour l'an prochain. On va parler de l'actionnariat salarié. Il recule en Europe, en France, les salariés ne détiennent que 4,2% du capital des entreprises cotées. C'est très loin de l'objectif fixé par le gouvernement. Faut-il le regretter ? On va en débattre dans un instant. Et puis, on se penchera sur la question du droit de grève. Le Sénat s'apprête à voter une proposition pour encadrer davantage le droit de grève. Mais la proximité avec les Jeux Olympiques risque de bloquer son éventuelle adoption. Pourtant, c'est un vrai sujet, on le verra, en matière d'attractivité de notre pays. Et puis, comme tous les matins, la carte blanche de nos experts. Chacun est venu en plateau avec une idée, un sujet qu'il a choisi de défendre. On va parler éducation, notamment, avec le débat sur le financement de l'enseignement privé. On parlera également de l'intelligence artificielle avec son impact sur l'emploi. Vous pouvez participer au débat, nous envoyer vos questions, vos commentaires, vous le savez, sur X, anciennement Twitter, @StephPedrazzi. Je me ferai un plaisir de relayer vos commentaires et vos questions auprès de nos invités. Soyez les bienvenus. Nos trois experts ce matin, Céline Antonin, économiste à l'OFCE, bonjour.
Bonjour.
Co-auteur du Pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme, édition Odile Jacob. Pierre Jacquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de politique économique à l'école des Ponts Paris Tech et membre du Cercle des économistes que vous représentez cette semaine. Et bonjour également à Pierre-Henri de Montbon,
bonjour,
directeur de la rédaction de Challenge. Est-ce qu'il s'agit d'une prévision ou d'une incantation ? En tout cas, Bruno Le Maire promet un élan économique puissant pour l'an prochain. Il constate le ralentissement de l'inflation et espère désormais que les baisses de taux des banques centrales vont permettre de relancer la machine. On va prendre les choses par étapes. D'abord, le ralentissement de l'inflation. Céline, est-ce que les banques centrales vont encore pouvoir nous dire à ce niveau-là que le combat contre l'inflation n'est pas encore gagné ?
Je pense que c'est de plus en plus difficile de le dire. En tout cas, il est vrai qu'on a eu une baisse de l'inflation qui a été assez rapide dans les derniers mois, et en France, mais également dans les autres pays de la zone euro. Hein, donc, dans certains pays d'ailleurs, dans lesquels l'inflation avait beaucoup plus progressé qu'en France, je pense notamment à des pays comme l'Allemagne. Donc, effectivement, on s'attend autour, disons, de l'été, à un début de baisse de taux. Alors, je ne sais pas qui dégainera en premier entre la Fed et la Banque Centrale Européenne. Mais
réunion de la BCE la semaine prochaine, la suivante c'est le 6 juin. Pour l'instant, le marché prévoit une baisse pour le 6 juin.
Voilà, j'allais dire, c'est plutôt à l'été qu'on voit, enfin à l'été, oui, ou en tout cas vers l'été qu'on prévoit un début de baisse. Mais ce qu'il faut voir avec la politique monétaire, c'est que même si on commence à enclencher des baisses, il y a toujours un temps de transmission de la politique monétaire sur l'économie réelle qui fait que on va continuer en 2024 en tout cas à subir les effets des hausses passées et le fait que les crédits à l'immobilier, enfin pour l'immobilier, la consommation, etc., coûtent plus cher. Donc il est vrai qu'en 2024, ça devrait encore nous amputer d'un certain pourcentage de croissance. Nous, à l'OFCE, on chiffre qu'on a à peu près un demi-point de croissance en moins en 2024, qui est lié justement à l'effet de la politique monétaire. En revanche, il est vrai qu'en 2025, on devrait voir un petit effet positif, en tout cas de soutien, qui vient de la politique monétaire, mais ça sera surtout en différentiel par rapport à 2024, on aura encore cet effet qui sera prégnant.
Pierre Jacquet, vous êtes économiste également. Est-ce qu'il y a un risque de reprise de l'inflation à ce stade ?
Il y a toujours un risque de choc extérieur, compte tenu de la situation mondiale en particulier.
Mais c'est une inflation particulière sur laquelle les hausses de taux n'ont pas pris, si on parle du pétrole.
Et le traitement par la politique monétaire ne serait pas à ce moment-là le plus approprié. Donc je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, ce qui tente à suggérer que la perspective d'une croissance radieuse en 2025 tient quand même un petit peu de l'incantation. Parce que les vraies sources de la croissance, ce n'est pas la politique monétaire, c'est les gains de productivité. Alors il se trouve qu'il y a des bonnes nouvelles de ce côté-là, parce qu'on est en plein pleine révolution industrielle, sauf que ces révolutions industrielles, qui sont des révolutions très structurantes et structurelles, mettent près d'un demi-siècle à produire tous leurs effets. Donc on est dans cette période un petit peu de transition dans laquelle on voit la productivité ralentir et on voit pas tellement ce qui peut permettre de l'augmenter à court terme. Et ça, ça tient aussi de la qualité des dépenses d'investissement, des dépenses publiques en particulier. C'est un peu pour ça qu'on peut être préoccupé de la tendance actuelle qui consiste à dire réduire la dette quoi qu'il en coûte.
Pierre-Henri de Menton, Bruno Le Maire, il fait quoi? Il fait de la com, il prépare la prochaine campagne. Est-ce qu'il cherche à rassurer les agences de notation?
Alors, c'est un grand classique. C'est un grand classique, c'est la croissance y pourvoira. Alors là, ce qui est un peu gênant, si vous voulez, c'est que dans le même temps, il a un discours extrêmement alarmiste sur les finances publiques. Et il y a quelques semaines, le gouvernement, assez piteusement, a dû revoir très largement à la baisse ces prévisions de croissance qui avaient été inscrites dans le projet de loi de finances. Donc on a, c'est un grand classique de communication du ministre de l'économie et des finances et généralement des gouvernements français, que de dire de toute façon la croissance sera là et les rentrées fiscales vont suivre, sauf que ça n'a pas du tout marché l'an dernier.
Mais ça marche jamais généralement.
Ça peut marcher, on
peut accabler Bruno Le Maire, mais
ça peut marcher. Il y a eu des exercices fiscaux où par exemple le gouvernement avait prévu des taux d'intérêt, un service de la dette qui n'avait pas grand chose à voir, et on peut avoir des bonnes surprises. Et effectivement, là, s'il y a une baisse des taux, il y aura un impact presque mécanique. Alors, il va falloir attendre assez longtemps, mais sur un certain nombre d'agrégats, comme la dette, le service de la dette. Et puis aussi, il y a un levier qui peut être assez rapide, c'est celui ça peut débloquer le crédit immobilier aussi. Donc là, il peut se passer des choses, effectivement. Mais là, on est quand même dans la communication. Je vous ferai pas de dessin. Tout le débat en ce moment tourne autour des finances publiques. Est-ce qu'on va y arriver avec cette échéance fin avril? Je crois que c'est le 24 de Moody's. Donc on est là dans l'incantation.
Alors il y a plusieurs leviers. Réduire les dépenses. Ça, en ce moment, on a un petit peu un concours l'épine des mesures d'économie, c'est ce que disait Clément Beaune le week-end dernier. Va falloir faire 30 milliards d'économies sur 2 ans si on veut revenir dans les clous de la trajectoire budgétaire. 10 milliards cette année et 20 milliards l'an prochain. L'autre option, ce sont les hausses d'impôts. Vous êtes tous les deux économistes. Qu'est-ce que vous conseilleriez à Bruno Le Maire ? Céline.
D'accord. Donc, alors, ce que je conseillerais à Bruno Le Maire, alors j'avoue que c'est compliqué. Moi, je pense qu'il ne faut rien exclure. C'est-à-dire que je pense que de dire, enfin, c'est un petit peu ce qu'on entend, le message dominant est de dire on ne veut absolument pas toucher au prélèvement obligatoire et ne pas augmenter l'impôt. Alors moi personnellement, je pense qu'on est déjà en France à un taux de prélèvement obligatoire qui est le plus élevé en Europe, donc il est évident que c'est pas une panacée que d'augmenter les impôts. En revanche, on ne peut pas totalement se l'interdire non plus, c'est-à-dire que de faire peser, on va dire, l'effort uniquement sur les dépenses publiques, ça me semble assez irréaliste quand on a 30 milliards à trouver. Et pour autant, il est vrai qu'il y a aussi des choses à faire du côté de la dépense. Donc en gros, si je devais résumer, je dirais que en matière de prélèvement obligatoire, on est déjà très élevé, mais il est évident qu'on peut repenser certaines choses sur la fiscalité. Alors, sans rentrer forcément dans les détails, mais notamment si on regarde ce qui se passe sur l'impôt sur le revenu, par exemple, on peut se dire effectivement, on peut très bien repenser un impôt sur le revenu en ayant, par exemple, des tranches marginales plus élevées. Enfin, il y a des choses qui sont faisables. Mais après, je veux dire, voilà, tout ça se réfléchit, tout ça ne se fait pas dans l'urgence. Par exemple, sur les très hauts revenus, il y a une taxation qui est possible. Ça, c'est une première chose.
Mais la fiscalité, c'est pas uniquement l'impôt sur le revenu.
Bien sûr,
non, mais là, je pense.
Alors, tout à fait. Alors, c'est vrai que ce qu'on dit sur la TVA, c'est que, en général, c'est un moins bon impôt parce qu'il va toucher indifféremment toutes les catégories, et que c'est vrai que c'est un impôt plus injuste parce que
il va
affecter davantage effectivement ceux qui sont.
Mais les touristes le payent.
Tout à fait. Donc il y a aussi un argument en faveur effectivement de la TVA. C'est pas non plus fermé. De manière générale, de toute façon, il est vrai que, enfin, il faut réfléchir à la combinaison optimale qu'on souhaite. Il y a des questions qui se posent. Et sur la question de la dépense, Là aussi, il y a des choses à rationaliser, alors sans rentrer forcément dans tous les détails, mais par exemple sur l'apprentissage, on sait qu'on a une politique qui était très coûteuse et qui a sans doute des économies à faire. J'ai mon collègue Bruno Coquet à l'OFCE qui avait chiffré une partie de ses économies à 8 milliards d'euros, donc voilà, en disant qu'une partie des dépenses était inefficace. Mais ne serait-ce que si on prend même d'autres mesures, je sais pas, moi qui travaille pas mal sur l'éducation et la recherche, vous avez des dépenses comme le crédit impôt recherche, dont on dit qu'elles sont très orientées vers les grandes entreprises et pas du tout assez efficaces. On pourrait davantage les orienter vers les PME et les petites entreprises et éviter un effet d'aubaine. Donc je pense qu'il y a plein de mesures à rationaliser. Il y a la question aussi des transferts envers les collectivités territoriales et autres. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire, mais ça ne se fait pas dans l'urgence, ça se réfléchit. Oui. Et c'est pareil, la fiscalité, c'est pas des mesures à l'emporte-pièce en disant je vais taxer les super-profits, etc. Il faut quand même que ce soit tout ça dans un cadre pensé, réfléchi et qui soit optimal aussi en termes d'efficacité pour l'économie française.
Bruno Le Maire le disait hier matin dans les colonnes des Échos, 10% des contribuables représente une très grosse partie, je crois que c'est les trois quarts de ce que produit l'impôt sur le revenu. Il y a d'autres leviers que l'impôt sur le revenu.
Enfin, l'impôt le revenu n'est pas la principale recette
la TVA,
fiscale.
La première recette fiscale.
Moi, je voudrais être un tout petit peu plus radical. C'est-à-dire que je pense que cette façon de ramener le problème à un problème financier est une façon de ne pas poser les vraies questions. Il n'y a pas de problème financier de dette en France. On arrive à placer les titres de dette. La France a une bonne solvabilité. Il y a un problème de gestion des finances publiques, oui, qui est un problème de long terme, d'ailleurs. C'est pas un problème qu'on devrait découvrir aujourd'hui. Ça fait quand même plusieurs années, voire décennies, qu'on parle de la gestion des finances publiques françaises. Le vrai sujet en France, c'est un sujet, en effet, de dépenses publiques et de fiscalité. Sur la fiscalité, je suis assez d'accord qu'il n'y a pas de raison d'exclure les choses. Pourquoi se fermer des portes? Ce n'est pas la peine.
C'est ce que disait le président délégué du Conseil d'analyse économique.
Je pense qu'il a raison. Mais le vrai sujet aujourd'hui, c'est les dépenses publiques. Quels sont les choix de dépenses publiques que notre pays fait pour des raisons de contrat social, de stratégie, de vision à long terme, de transition énergétique, de transition verte, et comment on les finance? Or, c'est pas comme ça qu'on pose le problème. On dit, oh là là, on a eu 5,5% de déficit public, il faut absolument réagir et corriger nos dépenses, donc on va couper. Et quand on dit ça, le grand risque, c'est qu'on coupe de façon non réfléchie, là où c'est plus facile de couper, et il se trouve que c'est en général les endroits où c'est plus utile de maintenir les dépenses. Donc voilà, je crois qu'il y a un vrai sujet de réflexion profonde à long terme sur la structure de nos dépenses publiques. Et on l'a pas, ce sujet.
Pierre-Henri de Menton, on a l'impression qu'on est assis sur un volcan en France. Est-ce qu'on peut décemment réduire les dépenses de 30 milliards d'euros ou augmenter les impôts sans mettre tout le monde dans la rue?
Sur l'augmentation des impôts, bon, il faut quand même rappeler qu'on est les champions des prélèvements obligatoires. Donc c'est un petit peu compliqué. Pour l'instant, les agences de notation sont très clémentes avec la France, puisque l'impôt rentre bien et il y a une acceptation malgré tout de l'impôt dans notre pays qu'il n'y a peut-être pas ailleurs. On est habitué à être matraqué de ce côté-là. La seule chose, c'est qu'il y a une contrainte, il y a une contrainte politique, c'est que l'actuel président de la République, c'est son mantra depuis le début de pas augmenter les impôts. Alors c'est un peu compliqué quand même de le faire. Donc ça peut être des dispositifs. Moi, je pensais par exemple au rachat d'actions où le président de la République avait annoncé des choses. Il n'y a jamais eu de suite parce que les lobbies patronaux sont opposés, mais quand on regarde ce rachat d'actions, donc c'est l'idée plutôt que de distribuer des dividendes, que les entreprises rachètent leurs propres actions, ce qui fait monter le cours de bourse. Donc c'est vraiment un investissement contre-productif, c'est-à-dire qu'on va investir pas pour racheter des entreprises ou conquérir des marchés, mais simplement pour entretenir. Donc ça, par exemple, aux États-Unis, Joe Biden s'est battu contre ça. Il y a eu des dispositifs, et pas en France. Ça peut être quelque chose. Et après, pour rebondir sur ce que disait Céline, il y a effectivement des niches, des dispositifs en dehors, bien sûr, des réformes structurelles à faire. Je pense aux valeurs locatives, par exemple, qui sont toujours aussi fausses. Ça doit faire 20 ans qu'on en parle, ça n'a jamais été fait. Mais on est, par exemple, là, je regardais, bon, sur l'apprentissage, si on enlève les aides à l'apprentissage à partir des bacs plus 3, ça rapporte 3 milliards. Il y a un truc amusant, donc c'est l'exercice qu'on a fait dans Challenge cette semaine. Les aides, quand on voit les aides aux associations sportives et de loisirs en France, ça représente 0,6% du PIB. On est les champions européens de ça. Si on revient à la moyenne européenne qui est de 0,4, c'est 6 milliards. Hein. Mais là, on prend le risque de, si on coupe dans les budgets des clubs de pétanque et de football, on prend le risque de mettre les gens dans la rue.
Est-ce que la pétanque est une discipline olympique ?
Mais ce que je veux dire, c'est que à force de d'avoir peur de faire des choses, on fait plus rien. Et je pense que l'exécutif a été un peu traumatisé par les gilets jaunes, et on a toujours ce truc de, on a peur de mettre les gens dans la rue. Je pense que les citoyens sont responsables et savent qu'il y a des problèmes qu'on leur explique bien. Il faut bien faire œuvre de pédagogie.
On va parler des grèves dans un instant. Céline, vous voulez
réagir? Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Et très rapidement, c'est vrai qu'on le rappelait, il y a 450 niches fiscales en France. Hein, alors, comme on dit, il y a un chien dans chaque niche. Hein, c'est-à-dire que c'est toujours compliqué de supprimer une niche. Mais après, il y a une question de choix aussi, de choix politique. Et c'est vrai que de là à être complètement frileux, après, effectivement, il faut faire en sorte, à mon avis, de vraiment avoir à cœur d'avoir une dépense efficace. Parce que je pense par exemple aux pays du Nord, parce qu'on dit souvent la France paie beaucoup d'impôts, mais la contrepartie c'est aussi qu'on a un système de protection sociale, etc. Évidemment. Mais il y a des pays qui sont plus efficaces avec une dépense publique plus faible. Donc il faut quand même aussi prendre exemple. Et par exemple, je voulais rappeler sur ce que je disais sur l'impôt sur le revenu, si on regarde certains pays comme l'Italie par exemple, en fait ils taxent au premier euro, c'est-à-dire que effectivement le premier euro gagné, il y a une participation à l'impôt sur le revenu, alors qu'en France, l'assiette est très faible, on est à 43%. Donc, je pense qu'il ne faut rien totalement s'interdire, et là aussi, on peut supposer, il y a des pays nordiques qui ont des taux marginaux d'imposition sur le revenu qui sont plus autour de 50%, alors qu'on est à 45%. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à repenser, mais je pense qu'il faut...
Il y a des choses qui sont tout à fait vendables, hein. Par exemple, la TVA réduite sur les billets d'avion, c'est quand même curieux comme truc, et ça sera un signal. Là, on parlait des chiens de garde dans les niches. Bon, là, il y en a assez puissants, mais quand même, c'est là, on serait, ça serait même peut-être bien perçu par une grande partie de l'opinion.
Je vous donne quelques réactions et des questions aussi. D'abord, une réaction des amis européens sur Twitter. La croissance française, c'est celle de la consommation intérieure. Avec le chômage qui remonte, il ne faut pas y compter. 2025 sera marqué par de la décroissance. Une question, celle de Nicolas, qui nous dit: quels sont les indicateurs économiques qui expliquent la baisse de l'inflation ?
La baisse de l'inflation, elle s'explique d'abord par la baisse du prix de l'énergie. Ça a été... Parce qu'il faut quand même rappeler que le premier choc, c'était le choc énergétique. Ça s'est transmis ensuite sur l'alimentaire, notamment parce que l'alimentaire, on a besoin d'énergie pour produire les engrais, le transport, etc. Et ensuite, il y a l'aspect aussi baisse de la demande, qu'il ne faut pas oublier, et qui explique la baisse aussi des prix, de la baisse de l'inflation. Puisque effectivement, ce qu'on a vu, c'est qu'au départ, après la crise de la Covid et au moment de la crise énergétique, on avait plutôt une demande très dynamique et une offre qui peinait avec les problèmes d'approvisionnement, etc., à la satisfaire. Et donc ça a entraîné aussi une inflation. Aujourd'hui, on a plutôt des problèmes en matière de demande, une demande insuffisante. Donc.
Et j'ajouterais que la baisse de l'inflation montre aussi que le choc inflationniste ne s'est pas traduit par une traduction sur les salaires. Il n'y a pas eu de boucle prix-salaire.
C'est fait de second tour, qui était beaucoup plus marqué aux États-Unis.
Qui a été un peu plus marqué aux États-Unis.
Allez, on va parler dans deux mois, on va parler de déflation.
Et on va dire
l'économie est un éternel recommencement. Question de Thomas Blard, un de mes anciens collègues journalistes, qui nous dit: au sujet de la destruction créatrice, ne serait-il pas plus judicieux de parler de création destructrice ?
Wow, ça c'est pour spécialistes.
Alors ça c'est un éternel débat. Oui, alors en plus il y a une polémique autour de la traduction du concept de Schumpeter. Donc oui, c'est très juste de parler plutôt de création destructrice. Et ce qu'il faut voir justement, ça me permet de rebondir. Pour faire le lien avec le sujet qu'on abordait juste avant, il est vrai que au cours de la crise de la Covid et dans le quoi qu'il en coûte qui a suivi, on a eu tendance à soutenir toutes les entreprises de façon un peu indistincte. Et ça aussi, c'est un vrai problème, et je pense que ça pose une question de l'État un peu qui vient toujours, qui est presque un État nounou, qui vient perfuser maintenant les entreprises. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout discriminé entre celles qui en fait avaient vocation à survivre et celles qui n'avaient pas vocation à survivre, et du coup on a soutenu tout le monde, et aujourd'hui on a devant nous le fait que certaines sont peu productives, ce qui explique sans doute aujourd'hui une partie du manque de productivité qu'on connaît, parce qu'effectivement on a aidé les bons et les mauvais risques, alors que dans un processus normal de l'économie, il y a de la création et il y a de la destruction.
C'est dur de choisir.
Une question avant la pause. Est-ce qu'il faut restreindre ou en tout cas encadrer davantage le droit de grève ? Le Sénat s'apprête à voter une proposition. Elle sera votée mardi prochain. Mais la proximité des Jeux Olympiques risque de bloquer son éventuelle adoption à l'Assemblée. Pourtant, c'est un vrai sujet. La grève en France, alors on rappelle la proposition du Sénat, imposer, interdire la grève dans les transports, notamment certains jours à proximité des vacances, par exemple. C'est un peu devenu une habitude en France. En matière d'attractivité, Pierre-Henri de Menton, est-ce que ce n'est pas un repoussoir, les grèves françaises?
Écoutez, il faudra demander aux touristes étrangers. Ça les
non, je parle en matière d'investissement.
Ah, d'investissement, je pense... Enfin, personnellement, je ne pense pas que ça soit un critère, on va dire, discriminant. Après, il y a des dispositifs législatifs. On parlait de communication politique. Là, c'est quand même là, on est vraiment au cœur de ça. Il y a beaucoup de dispositifs qui ont déjà été votés, qui sont sans arrêt contournés. Il y a toujours moyen de faire des préavis en chaîne, etc. C'est un signal politique. Je pense que c'est un peu dangereux de se lancer là-dedans aujourd'hui, précisément à 100 jours des JO. Ouais.
C'est la meilleure façon de se mettre. La bonne idée.
Mais même indépendamment des JO, c'est franchement pas le moment de lancer un débat comme ça.
Oui. Quand est-ce qu'on lance ce débat ?
Mais je suis pas sûr qu'il faille le lancer. Je suis pas sûr que je pense que le vrai problème n'est pas le droit de grève. C'est une pratique, c'est l'absence de débat social en France. C'est très différent. Aujourd'hui, la seule façon de lancer un débat sur des mesures, c'est le droit de grève. On a des gouvernements de sachants qui savent ce qui est bon pour le pays, qui l'annoncent.
Alors, pourtant, la négociation.
Ça déplaît et on devrait.
Mais pourtant, la négociation sociale permanente, un petit peu sur le modèle allemand, c'est ce que voulait faire François Hollande, il n'y est jamais arrivé.
Oui, voilà, alors il y a un petit problème quand même par rapport à l'Allemagne, c'est la faiblesse de nos syndicats.
Voilà.
On a tous en tête ce qui s'est passé sur les contrôleurs de SNCF.
C'est pas un mouvement syndical.
Hein, voilà. Donc,
et il y a une différence parce qu'en Allemagne, les salariés, c'est uniquement les salariés du privé qui peuvent faire grève. Les fonctionnaires ne peuvent pas faire grève. Voilà. Et c'est vrai qu'en Allemagne, ça s'inscrit dans en fait une logique de branche industrielle qui est forte.
Voilà,
puisque par exemple, les négociations syndicales en Allemagne, elles ont lieu sur les salaires, elles ont lieu tous les deux ans au sein de représentations comme par exemple la sidérurgie, IG Metall, etc. Donc il y a vraiment des gros syndicats et c'est eux en fait qui portent ces négociations, il y a un taux de représentativité syndicale qui est bien plus élevé.
Et c'est de ça qu'il faut parler. Je pense que le vrai sujet, il est là, il n'est pas dans l'encadrement du droit de grève.
Et après, moi personnellement, sur le droit de grève, je veux dire, il y a deux principes en droit qui s'opposent. Il y a la continuité du service public d'un côté
et
le droit de grève de l'autre. Et on a fait
dans la Constitution.
Les concilier. Bon, voilà. Oui. Moi, ce qui me choque un petit peu aussi dans le débat, c'est que c'est vrai qu'on en parle à l'approche des vacances, du droit de grève, à l'approche des vacances. Moi, je pense que si à ce moment-là, on légifère, enfin, je veux dire, c'est pas uniquement les vacances, c'est bien d'aller travailler aussi. Donc, je pense que voilà. Puis le télétravail a mis aussi un petit bémol à ça, puisqu'aujourd'hui, avec le télétravail, je pense que c'est aussi un peu plus facile de s'organiser, notamment face aux grèves dans les transports. Mais je suis quand même assez choquée du fait qu'on ne parle... Enfin, oui, c'est bien de partir en vacances, c'est bien de pouvoir aller travailler aussi.
Et on appelle l'investissement comme étant la justification du débat, ce qui n'est pas. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, on dit régulièrement que la France est un des pays les plus attractifs en Europe. Donc il y a une contradiction.
Et les chiffres le confirment, en matière d'investissement étranger.
Vous prenez le nombre d'heures de grève, je ne pense pas qu'on soit très mauvais.
Peut-être qu'ils sont concentrés, qu'elles sont concentrées ces heures.
Oui, elles sont désagréables à vivre, il ne faut pas se le cacher. Mais bon.
Allez, dans un instant, on va parler de l'actionnariat salarié dans les entreprises. Je vous donne juste un petit commentaire avant la pause. On peut toujours compter sur les experts pour inventer des hausses de taxes et d'impôts dans le pays déjà le plus taxé au monde, mais beaucoup moins pour baisser la dépense publique. C'est affligeant.
Oh.
C'est la Pravda qui nous dit ça. Merci, la Pravda. On se retrouve juste après.
On a fait les deux.
Est-ce la bonne décision ? Quelque chose. Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi énergie-climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Stéphane Pedrazzi accueille les experts.
La deuxième partie des experts avec toujours nos trois invités en plateau, Céline Antonin, économiste à l'OFCE, Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge et Pierre Jacquet, membre du Cercle des économistes. C'était l'un des objectifs du gouvernement, atteindre 10% d'actionnariat salarié dans les entreprises. En France, on en est encore très loin, 4,2%, seule consolation. Le chiffre est supérieur à la moyenne européenne qui est aux environs de 3%. Pierre-Henri de Menton, pourquoi c'est si compliqué ?
Alors, d'abord parce que c'est compliqué. Les dispositifs sont, ils sont sans arrêt modifiés à la marge, mais les dispositifs d'intéressement et de participation sont extrêmement complexes. Alors après, il y a des entreprises qui ont un problème culturel, effectivement, avec ça. Sur le, on va dire, le partage du pouvoir dans l'entreprise. La révolution, on parlait du modèle allemand, enfin si on peut encore parler d'un modèle allemand, parce que l'économie allemande n'est pas très florissante, mais quand même, c'est la forme de co-gestion est quelque chose qui a jamais vraiment pris en France. Hein. Ensuite, il y a, je pense, un problème d'acceptation du risque par les salariés. Hein, je voyais, là, on a sorti dans nos pages confidentielles l'évolution des plans d'entreprise au sein du groupe Mullier, qui n'est pas coté en bourse, mais où les salariés sont largement actionnaires de l'entreprise, et tous les ans, boum, on leur sort une valorisation. Et bien là, en 2023, donc ils étaient habitués, ça, c'était formidable, ça leur payait leurs vacances ou des projets pour leur... Là, l'action Auchan, qui ne s'appelle pas Auchan, hein, qui a un nom, le titre, je ne sais plus comment il s'appelle, elle s'est effondrée l'année dernière. Par contre, leurs collègues de Decathlon, qui sont dans le même univers, ça a monté à deux chiffres. Donc il y a une exposition quand même directe à ce qui se passe, c'est le syndrome des caissières de Carrefour. Je sais pas, vous en rappelez peut-être, c'était il y a très longtemps, où Michel Bon, donc, était un grand patron de Carrefour, et grand apôtre de l'épargne salariée, avait les caissières de Carrefour avaient placé toute leur épargne en titre Carrefour coté en bourse, et quand ça s'est effondré en bourse,
oui, bah, ça peut faire mal.
Ça faisait très mal. Donc c'est un outil, on va dire, à manier avec une très grande précaution, parce qu'il faut que ça soit une forme d'épargne collective. Il faut pas que les salariés soient pieds et poings liés dans leur épargne avec leur entreprise, qui déjà les occupe pas mal. Donc voilà. Alors on est quand même plutôt, moi je pense, en France, bon élève au niveau européen, mais c'est vrai qu'on est très loin.
Il ne faut pas être obsédé par cet objectif.
On est très loin des. Et puis des grandes différences entre entreprises. Je parle de grandes entreprises comme Bouygues ou FH ou même la Société Générale, où on est au-delà des. On est autour ou au-delà même des 10%. Donc ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres entreprises, en particulier dans les PME.
Vous êtes d'accord, Pierre Jacquet, tous les salariés n'ont pas pour vocation à avoir une partie. On va dire, non pas variable, mais en tout cas fluctuante de leur rémunération.
Je pense d'abord que c'est encore une indication du fait qu'on aime bien se fixer des objectifs qui ne seront jamais atteints. Et ça, c'est quand même aussi un problème, hein, dans la communication de la politique publique. C'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler. Alors, moi je crois qu'en effet, le partage de la valeur implique une compréhension et un partage du risque. Et je crois que c'est en effet là l'une des difficultés majeures. Et en finance, on sait comment gérer le risque, c'est en diversifiant. Et donc l'idée que les salariés devraient avoir une partie de leur rémunération sous forme d'actions de leur entreprise est en soi contradictoire. Parce que ça voudrait dire qu'ils acceptent le risque, mais qu'ils ne le diversifient pas. Et donc le problème de l'épargne salariée, c'est comment on fait en sorte que l'épargne soit détenue de façon suffisamment diversifiée pour que le risque puisse être porté par les salariés. Donc il y a un problème d'éducation, il y a un problème d'organisation, et c'est complexe. En même temps, moi, je regrette que ça n'avance pas plus vite, parce que je crois, contrairement à ce que dit Jean-Marc Daniel d'ailleurs, je crois que le sujet de la coopération entre le capital et le travail pour produire de la valeur est un sujet très important. Je pense d'ailleurs aujourd'hui que dans beaucoup de secteurs, le travail est sous-rémunéré, il n'est pas rémunéré à sa valeur sociale, et donc il faut travailler sur cette question de la définition et du partage de la valeur.
Est-ce que c'est quand même pas un mécanisme qui permet aux aux salariés d'avoir un complément de revenu que les entreprises n'auraient peut-être pas versé. Les augmentations, elles sont pérennes.
Si mais l'entreprise ça dépend de la santé de l'entreprise.
Se retrouve dans une situation plus compliquée. Que l'un se substitue à l'autre non plus.
Exactement.
Ah, c'est pour
alors
ça que les,
comme on disait, comme le disait,
les syndicats sont assez hostiles. Hein, en particulier la CGT préfère des augmentations
de l'épargne salariale.
Sauf que les augmentations, elles sont forcément limitées par la prudence des entreprises. Céline, où est-ce qu'on place le curseur justement entre les deux?
Bah c'est compliqué de placer le curseur, parce que ce qui est compliqué, c'est que il y a une telle hétérogénéité justement, ne serait-ce que par la taille de l'entreprise, et donc on veut quand même faire en sorte que les salariés ne soient pas trop désavantagés en fonction de la taille de l'entreprise où ils travaillent. Donc c'est vrai qu'on se dit que, enfin moi je suis personnellement pour placer plutôt le curseur du côté du travail que du côté du capital, même si effectivement c'est un bon dispositif. Alors juste à ce que vous avez tous les deux mentionné d'ailleurs, à la nuance près, que il faut pas oublier qu'effectivement vous ne diversifiez pas quand vous êtes effectivement actionnaire de votre entreprise, et que si jamais l'entreprise va mal, c'est un peu la double peine, parce que par exemple vous vous retrouvez au chômage et en plus actionnaire d'une entreprise qui va mal.
Donc, l'idée du gouvernement, c'était aussi de rendre ces mécanismes accessibles à des entreprises plus petites, que ce ne soit pas uniquement l'apanage des grands groupes. On parlait tout à l'heure de dialogue social, est-ce que ça c'est pas un moyen d'amorcer le dialogue social en intéressant les salariés au fonctionnement de leur entreprise?
Bien sûr. Mais comme on le disait, on n'est pas encore au niveau de l'Allemagne en termes de cogestion.
Voilà, moi j'ai jamais vu ce qu'on appelle une NAO, hein, donc c'est
négociation annuelle obligatoire.
Voilà, où les syndicats vont à fond sur la participation et l'intéressement. Le premier sujet, c'est l'augmentation. C'était particulièrement prégnant ces derniers mois, les augmentations par rapport à l'inflation. On va dire les patrons s'en sont bien sortis en France cette année, puisque les marges ont augmenté et qu'il n'y a pas eu d'effet de second tour. Mais le combat des syndicats, peut-être à l'exception d'une frange de la CFDT, le combat des syndicats, il est quand même pour les augmentations de salaire plus que...
Les syndicats tirent toujours à boulet rouge sur les dividendes, mais là, en l'occurrence, si on est dans un grand groupe et qu'on a des actions du groupe, finalement, on va avoir des dividendes.
Oui. Et là, ça a été... c'est incroyable. Alors, dividendes ou primes d'intéressement, quand on voit ce qui s'est passé dans les grands groupes, c'est plusieurs milliers d'euros chez Stellantis, par exemple. Et vous aurez remarqué que les salariés de Stellantis, ils n'ont rien à dire sur la rémunération de leur patron, qui est quand même le patron
exorbitant.
Ça ne pose pas de problème, puisque eux-mêmes, à leur niveau, en bénéficient. Donc, il n'y a pas de... Donc, effectivement, quand je pense que là, pour le coup, quand l'entreprise gagne beaucoup, il est normal qu'il y ait une redistribution.
Le problème, c'est...
Alors, par quel biais ? Dividendes, primes, augmentation, mais c'est quand même normal. Le
du problème, coup, bonne c'est ou mauvaise chose ? C'est vrai que j'aime bien les débats tranchés.
Non, c'est plutôt, enfin, en tout cas, c'est plutôt une bonne chose que ça existe. Alors après, il faut aussi ramener ça. Il faut plutôt ramener ça, j'allais dire, au fait que déjà en France, de manière générale, on a une tendance à avoir moins de, enfin, une moindre culture financière et donc moins d'actionnariat que dans d'autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons. Donc voilà. Donc tout ça est à mettre aussi en perspective.
Allez, vous me servez la transition sur un plateau. On a une mauvaise culture financière, on va parler d'éducation. Chacun est venu aujourd'hui avec sa carte blanche. Pierre-Henri de Menton, avec vous, on va parler d'éducation et du débat sur le financement de l'enseignement privé, notamment. C'est un débat...
Voilà, alors vous savez qu'il y a eu un débat au Parlement en cours avec un rapport assez sévère sur l'enseignement privé, notamment sur le manque de transparence et de résultats, notamment en termes de mixité sociale, alors que l'enseignement privé n'est pas vraiment privé, vous le savez, en tout cas
il est
celui
privé sous contrat.
Et ça coûte aux contribuables, ça tombe bien, on aime les chiffres ronds en ce moment, c'est 10 milliards hein, en gros.
On est sûr des 10 milliards parce que ce que dit le rapport justement, c'est qu'il y a une certaine opacité, on ne sait même pas exactement
voilà,
quel
alors,
est
en
le
tout
montant.
Cas,
moi j'ai vu entre 12 et 13 milliards.
Voilà, alors si, parce que ça, alors, effectivement, c'est plus compliqué parce que vous allez rajouter la quote-part des collectivités locales, des subventions. Vous savez, ça vous a pas échappé que la région Île-de-France a rénové les ascenseurs du collège Stanislas, hein, donc il y a une facture plusieurs centaines de milliers d'euros. Bon, donc effectivement, c'est même un peu plus si on ajoute l'effort que font les collectivités locales. Alors nous, on a avec nos amis de BFM Business et de Doxa, Gaël Sliman, on a eu l'idée de faire un sondage sur le sujet, savoir ce qu'en pensent les Français. Et alors c'est assez amusant. D'abord sur est-ce qu'on supprime la dotation de l'État au privé? Donc personne ne propose vraiment ça, sauf peut-être quelques LFI. Le résultat est assez incroyable, c'est qu'on a 2% qui ne savent pas, et 40, de chaque côté, ensuite 49%. C'est-à-dire que la France est réellement coupée en deux sur ce sujet éternel. Ça a commencé en 1793, on va dire, éternel de l'enseignement public contre privé. Hein, on a eu des allers-retours politiques, sujet éminemment politique et aussi économique, puisqu'il y a des grosses sommes en jeu, et derrière la qualité de l'éducation. Et alors, c'est les mêmes Français. Vous leur demandez, est-ce que vous préférez scolariser vos enfants dans le public ou privé? Et là, ça bascule. On a 54% qui préféreraient que leurs enfants soient dans le privé, même si on n'a pas toujours les moyens. Est-ce qui a une meilleure image? C'est le privé. Qui offre les meilleures garanties de réussite aux enfants? C'est le privé. Et quel est le meilleur en termes de résultats? Alors là, c'est terrible. On est à 75% pour le privé. Donc il y a une espèce de paradoxe, si vous voulez, ou qui est vraiment très français, on n'a pas envie de payer pour cette éducation-là, on n'est pas très, ça n'a pas une très bonne image, hein, c'est les cathos et tout ça, mais à côté de ça, on rêve de mettre ses enfants là-bas. Donc voilà, ce débat pour moi, il est entièrement sociétal et politique. C'est un truc, Guylaine Ottenheimer nous a fait un très bon édito où elle rappelle les allers-retours de Fallou à Debré, de Combes, même Robespierre qui a tout de suite arrêté l'espèce de nationalisation de l'éducation en disant on va aller dans le mur si on fait ça. Donc voilà, c'est un débat un peu hors sol pour moi, sociétal. Ça permet de donner du grain à moudre à l'Assemblée nationale. Voilà, je pense pas que ça ira très loin.
Il faut pas tordre le cou aux chiffres pour faire passer un message politique.
Après, il y a des vrais soucis. On l'a vu dans différents rapports d'experts, notamment sur la mixité sociale, où effectivement il y a un problème. C'est 10 milliards que paye l'État, on va dire. Est-ce qu'il favorise la mixité sociale ou pas via l'enseignement privé sous contrat? Et ben là, les chiffres sont pas très bons pour l'enseignement privé, d'où un débat intéressant qui peut y avoir, notamment sur des quotas, des choses comme ça, choses qu'ont fait par exemple les États-Unis.
Réaction?
Je pense qu'il y a un enseignement privé sous contrat. La première chose, c'est de vérifier que les contrats sont bien respectés. Oui. Et ça concerne en particulier, bien sûr, la mixité sociale. Mais je pense que l'urgence n'est pas tellement de débattre entre le public et le privé. L'urgence, c'est de se demander comment améliorer la qualité du public. Et personnellement, je trouve que la vision centralisatrice de la France, où il y a un ministre de l'éducation, quel qu'il soit, qui sait quoi faire, et à chaque changement de ministre, le quoi faire change. Et ça s'impose à tous les enseignements, tous les établissements publics en France, je ne pense pas que ce soit la bonne formule. Je crois qu'un peu de décentralisation, un peu de concurrence d'ailleurs, permettrait de trouver davantage que ce que la sagesse ministérielle permet de trouver. Voilà, donc pour être un peu
radical. On s'attaque à des tabous, hein, parce qu'effectivement l'éducation, le public aura à apprendre, vu les résultats de notre sondage, aura à apprendre comment on gère le privé, notamment en termes d'autonomie, etc. Exactement. Mais c'est indicible à l'intérieur de l'éducation nationale.
Une réaction sur les réseaux sociaux: l'éducation nationale n'a pas assez d'écoles pour reprendre les élèves du privé, il faut donc faire avec, nous dit les amis européens.
Oui, c'est une façon de toute façon, c'est vrai. Moi, je trouve que ce qui est frappant, c'est effectivement la dégringolade quand même du public, enfin, ouais, qui est quand même, qui avant était considéré comme le lieu, disons, d'excellence. Enfin, je veux dire, on a complètement inversé les choses. C'est-à-dire qu'avant, alors il y avait des très bons établissements privés, mais c'est vrai que le privé était plutôt vu comme, à la limite, pour les élèves qui avaient des difficultés, l'endroit où on mettait les élèves avec des difficultés. Et aujourd'hui, on voit que malheureusement,
c'est devenu plus élitiste.
Oui, et puis alors oui, absolument. Et puis surtout que le public, enfin, on n'arrive pas à assumer vraiment cette mission qui est de faire en sorte que tous les élèves, où qu'ils soient, quel que soit le territoire dans lequel ils se trouvent, aient accès à un enseignement
On parle de qualité d'éducation, mais est-ce que ce n'est pas aussi une conséquence de la carte scolaire, tout simplement?
Moi, je pense. Vous savez, pour vous raconter une anecdote sur la carte scolaire, quand j'avais 10 ans, enfin, c'était pas il y a très très longtemps, mais quand même. C'était quand même il y a quand même plus d'une vingtaine d'années. Et je peux vous dire qu'on avait formé ce qu'on appelait le Parlement des enfants. Et donc chaque enfant de chaque école primaire à Paris était envoyé à l'Assemblée nationale. Donc on était 577. Et la question qui avait été retenue dans ma classe, c'est moi qui l'avais posée, c'est à quand la suppression de la carte scolaire. Donc c'est pour vous dire quand même que
vous étiez déjà militante à l'époque. Je vous donne d'autres réactions sur le sujet d'avant, mais sur l'actionnariat salarié. Valy nous dit les salariés se moquent de leur entreprise et surtout de leur fonctionnement. Bon. Et Christian nous dit Air France, ça sent le vécu, vendu contre salaire à 14 euros, rendu à 1 euro. Attention à ce procédé. On l'a dit, il y a forcément du risque lorsqu'on parle d'être actionnaire de l'entreprise. On va passer à la carte blanche suivante, la vôtre, Céline. L'intelligence artificielle et son impact sur l'emploi.
Voilà, alors je vais essayer d'être un peu synthétique parce que on pourrait en parler des heures. Donc en tout cas, c'est un sujet que j'ai choisi parce que c'est un sujet sur lequel je travaille et dont on parle beaucoup en ce moment, donc notamment comme l'a évoqué mon collègue, on est dans cette troisième révolution industrielle, enfin qui a commencé avec les technologies de l'information et de la communication et qui se poursuit avec l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression que les choses se sont accélérées, notamment avec l'avènement de l'intelligence artificielle générative, donc notamment ChatGPT qu'on a vu apparaître en 2022 et donc qui semble un peu avoir bouleversé la donne. Et en fait, la grande question qu'on se pose, que se posent les économistes et de manière générale d'autres professions, les sociologues notamment, c'est est-ce que on est dans une révolution qui s'apparente en fait à une qui est comparable à l'automatisation passée, ou est-ce que là il y a quelque chose de complètement différent qui se joue, c'est-à-dire est-ce que le fait qu'on puisse imiter un comportement humain intelligent, c'est ça la différence, est-ce que ça va changer quelque chose? Autrement dit, dans le passé, on a souvent eu peur que la machine remplace le travailleur, hein. Keynes déjà en 1930 parlait du chômage technologique et des peurs qu'on avait. Mais là, les peurs, on se dit, est-ce que cette fois c'est différent parce qu'on va pouvoir remplacer des métiers très qualifiés, on va pouvoir remplacer un juriste, un chirurgien, etc. Alors, pour vous dire un peu l'état de la littérature très récente sur le sujet, ce qu'on voit, c'est que bien sûr, il y a un impact important donc de l'IA sur la productivité. Alors, c'est vrai que les dernières études, notamment américaines, montrent que vous avez des cas qui ont été simulés, par exemple, dans des centres, alors où c'est une entreprise qui gère des logiciels pour des PME, donc des gens qui sont sur une plateforme et qui doivent répondre aux questions de leurs clients. Et ce qu'on voit, c'est que quand ils sont aidés par des logiciels type ChatGPT, si vous voulez, qui leur donnent des conseils conversationnels, on observe qu'ils ont en fait des gains immédiats de productivité de l'ordre de 14%. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, ils traitent plus d'appels pour une qualité qui est à peu près comparable, mais qui traitent plus d'appels. Donc on a des gains assez formidables en termes de productivité. Pareil, par exemple, pour de la rédaction de texte, ce genre d'aide fait gagner 40% de votre temps. Donc on se dit, pour les entreprises, c'est quand même une manne extraordinaire. Alors ce qu'on constate, en fait, c'est qu'il y a plutôt un potentiel d'égalisation. C'est-à-dire que c'est plutôt les très bons salariés, eux, ne vont pas vraiment profiter forcément de ces logiciels, mais par contre, c'est ceux qui arrivent, c'est les nouveaux, c'est ceux qui ont un peu des difficultés, qui vont être mis à niveau. Donc il y a un petit côté aussi nivellement, peut-être égalisation entre les compétences, mais en tout cas il y a cet effet productivité. Et l'impact sur l'emploi, donc pour parler de l'impact sur l'emploi, là, vous avez des études qui commencent maintenant un peu à dater, donc notamment Frey et Osborne qui ont écrit il y a une dizaine d'années, eux ils avaient été très alarmistes en disant il y a 47% des emplois qui sont à risque d'automatisation dans les 10 à 20 prochaines années. Bon, on est 10 ans après et on voit quand même que ça s'est pas réalisé, mais en fait ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils pensaient que quand on remplaçait une tâche dans un travail, on remplaçait l'intégralité de l'emploi. Or, on se rend bien compte qu'un emploi est formé de plusieurs tâches et que si vous supprimez certaines tâches, il y en a d'autres qui vont elles continuer à perdurer et qu'on va peut-être même développer. Et donc les études plus récentes qui ont été faites, même sur la base de ces données, on était plutôt aux alentours de 14-15% des emplois supprimés. Et en fait, il y a eu une étude récente de l'OIT qui a été faite, donc en se basant sur les tâches des différents emplois, et qui montre en fait que vous avez plus d'emplois qui sont susceptibles d'être augmentés, c'est-à-dire de se développer, que d'emplois qui sont susceptibles d'être remplacés. Et il y a une grande hétérogénéité, c'est-à-dire que c'est les emplois intermédiaires, donc administratifs intermédiaires, qui eux ont le plus de risques d'être remplacés, alors que d'autres emplois de managers et autres ont moins de risques d'être remplacés. Donc tout ça pour dire qu'en termes d'enjeux, ça pose plusieurs questions. Bon, déjà, on est au tout début de cette révolution, même ChatGPT, ça fait 2 ans qu'on utilise, donc nous on a très peu de recul sur les données, mais en tout cas ces premières études, elles sont plutôt moins alarmistes que ce à quoi on pouvait s'attendre. Il ne faut pas oublier qu'il faut toujours, dans une révolution technologique, voir ce qui
sera détruit, mais aussi ce qui va être créé. Et là, on revient sur la destruction créatrice. Et surtout, ça pose des questions fondamentales en termes de formation initiale. Déjà, il faut anticiper les révolutions. Et en France, on a tendance à ne pas trop le faire. Parce que c'est vrai que sur l'éthique, les technologies, même de l'information et de la communication, on était déjà un peu, même assez en retard. Donc, je pense qu'il faut que dès l'enseignement d'aujourd'hui, on prenne en compte ces futures technologies. Et après, il y a un gros sujet sur la formation continue. On parle beaucoup d'assurance chômage et autres, mais j'aimerais qu'il y ait un vrai sujet important sur la formation continue. Bon, plus après tous les enjeux éthiques et autres.
Pierre-Henri, une réaction?
Oui.
C'est extrêmement bien expliqué.
Oui. Bravo, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des études. C'est surtout les cabinets de conseil qui jouent à ça, qui vous expliquent 37 322 emplois supprimés en 2035. C'est pas très bien. Bon, il y a eu la même chose avec les robots, avec les
médiatisés. Avec les allumeurs de réverbères qui allaient perdre leur boulot.
Et ce qui est très intéressant à vous écouter, c'est que effectivement là c'est très différent. Et il y a juste un petit clin d'œil, puis ça revient pour faire la boucle avec le sujet initial, c'est qu'à Bercy il y a toutes sortes de programmes d'IA et que ça va permettre, par exemple pour les contrôles fiscaux, etc. C'est un levier qui va permettre effectivement de créer de la rentabilité fiscale. C'est-à-dire qu'on va avoir une forme d'automatisation. De intelligence artificielle.
Mais on ne va pas remplacer
service.
Bruno Le Maire, rassurez-moi, il n'est pas en train de chercher sur ChatGPT comment trouver 30 milliards d'économies.
C'est un vrai sujet, par exemple, pour les conjoncturistes.
Vous savez que
c'est de l'agglomération. Robots, on fait de l'agglomération de data incroyable, on peut en prendre de plus en plus. Donc vous allez avoir combien de coffres s'ouvrent sur le parking du Walmart dans l'Oklahoma par satellite, et ça va, vous savez que c'est l'indicateur avancé de je ne sais quoi.
Ça fait un peu peur ce que vous me racontez quand
même.
Ça
va vous permettre.
Ça rappelle George Orwell quand même.
Donc tout le monde est un petit peu concerné, y compris les journalistes bien sûr.
Tout à fait.
Et aussi les économistes.
Mais du coup, il y aura une grande question sur
une chose quand même rapidement. D'abord, en effet, je crois qu'on est dans une vraie révolution générique, et l'impact dure sur plusieurs décennies, et on ne le connaît pas. Et donc on voit ce qui est détruit, mais l'angoisse, c'est qu'on ne voit pas ce qui est créé, parce que ce qui est créé, par définition, on ne le connaît pas. Et c'est vraiment l'innovation. Donc il faut avoir une certaine dose de confiance, et l'expérience des révolutions industrielles passées conduit à cette confiance. C'est-à-dire qu'en gros, l'électricité, elle a quand même eu un effet très très important sur la productivité et sur la qualité de la vie. Je pense qu'on peut attendre la même chose. Mais moi, l'un des aspects qui n'a pas, je crois, été mentionné, mais qui me semble extrêmement intéressant, en particulier avec ses retombées sur l'éducation, la formation, etc., c'est que l'IA, l'intelligence artificielle, change la relation à la connaissance. La connaissance devient immédiatement accessible. En appuyant sur un bouton, on a toute la connaissance présente et passée, et elle est synthétisée pour nous. C'est ce que fait ChatGPT. En revanche,
la lecture unique,
critique de la connaissance et la capacité d'utiliser la connaissance, ça c'est quelque chose qu'il est urgent de mettre dans les programmes de formation de façon beaucoup plus prioritaire.
Et parce qu'en plus, c'est ça
difficile.
Qui fera la valeur de l'humain face à la machine.
Exactement.
Parce que...
Il nous reste assez peu de temps. Rapidement, la carte blanche de Pierre Jacquet, c'est l'aide au développement qui va faire les frais des mesures d'économie.
Oui, très probablement, malheureusement, c'est un des secteurs qui risque de faire les frais des mesures d'économie. Et c'est, je crois que c'est une erreur stratégique très, très, très importante. Alors, peut-être qu'une façon de voir les choses, c'est de partir de la mondialisation. La mondialisation, d'abord, il n'y a pas de démondialisation. La mondialisation continue à exister. Il y a une crise des institutions de la mondialisation, ce qui est totalement différent. Quand on regarde le commerce, quand on regarde les échanges de connaissances, quand on regarde les échanges culturels, il n'y a pas vraiment de démondialisation. Il y a des problèmes politiques majeurs. Mais cette mondialisation, elle crée des besoins. Et elle crée des besoins qui ressemblent aux besoins qu'ont à gérer les politiques publiques dans nos pays. Il y a un besoin de réallocation des ressources. Les marchés distribuent mal les ressources. Il y a un besoin de réaction aux crises, un petit peu comme le keynésianisme permet de traiter les chocs. Et puis, il y a un besoin de redistribution. Il y a des pauvres qu'on a envie d'aider. Il y a un besoin de solidarité. Et donc, il y a un besoin d'une politique publique mondiale. Mais il n'y a pas de gouvernement mondial.
Non.
Et donc, ce qu'on appelle l'aide au développement, ce qui est un très mauvais nerf, parce que c'est ni de l'aide, enfin, c'est parfois de l'aide, mais c'est pas seulement de l'aide. Et puis, la notion même de développement est extrêmement floue. Donc, il vaudrait mieux parler d'un besoin d'action collective internationale qui couvre ces trois dimensions. Et en particulier, il couvre la lutte contre le réchauffement climatique, il couvre l'aide aux plus pauvres, etc. Et il est important que notre pays, qui a toujours été vecteur de cette vision du monde et de cette action collective internationale, mette suffisamment de budget dans cette amorce de politique publique mondiale. Et je crois que c'est pour moi une vision stratégique extrêmement, extrêmement importante.
Moi, je voudrais juste réagir parce que là, on parle d'un organisme qui s'appelle l'AFD, la l'Agence française de développement, qui en fait est issue du, en gros, du ministère de la coopération, ancien, qui lui-même était un peu le bras armé de la France-Afrique. Tout ça pour dire que je pense que l'aide au développement française, elle, par rapport aux grands objectifs que vous venez de fixer, elle a toujours eu, et c'est ça qui pêche un petit peu, une dimension soft power, pour parler un franglais assez neutre. Et ça a été un échec épouvantable. On a vu ce qui s'est passé avec beaucoup d'aide dans l'Afrique subsaharienne, l'état des relations entre... Donc si on se place cyniquement de ce point de vue-là...
Le retour sur investissement n'y est pas, c'est ce que vous êtes en train de me dire.
Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a un petit problème de vision, si je peux me permettre. À quoi ça sert? Est-ce que c'est pour lutter contre la pauvreté? Est-ce que c'est pour éviter qu'il y ait des pays qui exportent des migrants en France? Est-ce que c'est pour convaincre des pays transit de migrants de mettre des efforts pour prendre des objectifs très, très politiques? Est-ce que c'est pour lutter contre le réchauffement climatique? Je pense qu'on a trop, comme souvent, trop d'objectifs avec un seul instrument.
Voilà.
Donc c'est un peu à UIADIA. Je rappelle que jusqu'en 2017, on a versé, par exemple, de l'aide au développement à la Chine, ce qui est un peu bizarre, quoi. Ouais. Donc il faut, je pense, là, avoir une petite... Il y a des gens très, très intelligents qui s'occupent de ça, mais avoir une petite colonne vertébrale, quand même, en disant... et je pense que là, c'est un bon axe de réflexion. C'est une action collective internationale et ça doit être intégré. C'est pas un outil de puissance néocoloniale, quoi, pour parler un peu crûment.
Il faut avoir des mesures différenciées suivant les différents objectifs. Le grand problème, c'est qu'on a une statistique qui s'appelle aide au développement et qui couvre en effet beaucoup trop d'objectifs. Cela dit, moi qui connais bien l'AFD, parce que j'ai passé 10 ans de ma carrière professionnelle, je peux vous dire que l'AFD a une vision stratégique extrêmement fondée et solide, et que le travail que fait l'AFD dans les pays dans lesquels elle intervient n'est pas un travail de néocolonialiste.
Ah oui, merci. Non, mais non, c'est un peu une provoque pour terminer.
Merci à tous les trois, merci aux invités qui font la qualité de cette émission. Céline Antonin, économiste à l'OFCE, Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge, et Pierre Jacquet, professeur de politique économique, membre du Cercle des économistes. À suivre, Tout pour investir avec Lorraine Goumeau et toute son équipe.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.